Chapitre 4. La forteresse vénitienne de la fin du XVe siècle, Babington Dixit, dont je n'avais encore apprécié que ma chambre et sa garde-robe, les toits en terrasse et la cour centrale vue de haut, n'était qu'une figure de rhétorique, une fiction pour archéologue imaginatif. Lord Melrose avait transformé le château en plateforme sur laquelle il avait construit à son idée, à savoir une vaste villa en faux dorique pompéien, ouverte à l'intérieur sur un péristyle pour faire gréco-romain et ouverte sur l'extérieur de tous côtés pour offrir le maximum de lumière et de panorama. La réception et les cuisines étaient naturellement au rez-de-chaussée et les chambres aux étages. Une lampe à la main, je commençais mes investigations par un lieu où personne n'avait sans doute prévu que je porterais mes pas, les greniers. Tandis que la pluie battait les terrasses et s'en écoulait en torrents, j'ai remué bien des vieilleries, sans rencontrer rien d'extraordinaire, mais j'ai enfin ouvert une malle où avaient été jetés pêle-mêle, parmi des jouets luxueux, un bon nombre de magnifiques poupées de cire en triste état. Je soulevai les jupes, c'étaient des poupées à queue. Chez les poupées qui avaient été les plus appréciées, la queue était même toute ramollie, sans doute parce qu'elles avaient été amoureusement sucées. La constatation me déprima, alors qu'elle aurait dû achever de m'éclairer. J'avais déjà en main tous les éléments pour saisir que je n'étais point tombé par hasard dans une comédie loufoque, mais dans la plus rigoureuse des tragédies où rien n'avait été abandonné au hasard. Et cependant, je restais aveugle. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, mon esprit flottait de détail en détail, d'autant plus détouré par les accessoires qu'il avait reçus, dans l'ensemble, une formation plus scientifique et plus positive. La matière à étudier était trop riche et les arbres me cachaient la forêt. La seule chose que je puisse dire à ma décharge est que je venais d'être maltraité et souffrant. Vers 9 heures du soir, je parcourais les salons illuminés tandis que les rumeurs d'une conversation animée et joyeuse me parvenaient de temps à autre de la salle à manger où le souper devait tirer sur la faim. Bien sûr, comme il fallait s'y attendre, ces vastes pièces d'apparat dont les meubles restauration ou Regency s'accordaient à merveille au cadre pompéien présentaient aux visiteurs ce qu'il fallait de queue, ni plus ni moins. Il n'en manquait pas une, mais la densité n'en était pas anormale, si je puis m'exprimer ainsi. Et, à y bien réfléchir, il y avait plus bizarre encore que la présence de ces queues, la qualité des œuvres d'art qui en étaient gratifiées. J'avais fréquenté assez de musées ou de collections ouvertes à un public choisi pour acquérir, malgré mon jeune âge, un certain sens artistique. Et avec un minimum d'entraînement et d'attention, on en arrive à reconnaître assez vite la touche, la patte, la griffe, le procédé des plus grands peintres, par exemple, dont les œuvres ne sauraient être confondues longtemps avec des copies, si habiles fussent-elles. J'hésitais cependant sur l'authenticité d'un Rubens où un Cupidon à queue présentait un miroir à une Vénus. Il est trop souvent difficile de dire quelle est exactement la part du maître dans les tableaux de genre sortis de son atelier. En revanche, un nu debout vu de dos de Pierre-Paul Prudhomme, mort 4 ans auparavant, était un Prudhomme incontestable. Son fusain n'appartient qu'à lui, et une descente de croix de Gréco était plus Gréco que nature. Évidemment, un habile faussaire peut toujours ajouter une queue à un Cupidon de Rubens, à un gracieux modèle de Prudhomme ou même à un Christ du Gréco. Mais alors, le problème rebondissait, et de manière fort inquiétante. Il fallait abandonner l'hypothèse fantastique d'un monde simiesque où les queues n'empêchaient point les bons sentiments, pour une autre, et qui faisait froid dans le dos, celle d'un monstre richissime, trouvant son plaisir dans le vandalisme et le sacrilège, au préjudice de chefs-d'œuvre qui valaient beaucoup plus que leur pesant d'or. Et pourquoi donc? Quelle nécessité de s'en prendre à l'authentique alors que des copies eussent à première vue si bien fait l'affaire? Il y avait d'ailleurs une parfaite contradiction entre les agissements d'un dangereux maniaque et le goût très sûr, l'éclectisme souverain, qui avait présidé à la réunion et à la mise en valeur des collections inestimables qui se succédaient de salon en salon. Lord Melrose était de toute évidence un passionné connaisseur qui n'eût pas attenté à une toile de premier ordre sans un motif contraignant dont la nature me paraissait impensable. Une telle contradiction m'embrouillait l'esprit et de toute manière semblait m'éloigner de la véritable question, la présence de queues humaines sur Kalinaos. Là où aucun rajout n'était possible pour d'impératives raisons techniques, je demeurais de même sidéré par la facture des productions. Les bronzes, les porcelaines, les biscuits, les faïences, les vermeils, les argenteries, les marbres, les terres cuites ou les opalines portaient l'estampille des meilleurs artisans ou artistes, des meilleures fabriques ou ateliers, et quand l'estampille manquait, la beauté était au moins égale. Dans une galerie d'antiques, une diane à queue un peu courte, si elle ne remontait pas à Praxitèle, semblait sortir de chez Canova. Rien de plus fatigant que le piétinement dans un musée. À force d'aller et venir au sein de ce mystère irritant, je me sentis les jambes aussi lasses que la tête, et je m'assis devant le Gréco qui résumait à lui seul toute l'extravagance de Kalinao. Ce tableau donnait le vertige et je fermais bientôt les yeux. Je somnolais depuis un court instant lorsqu'une main m'a doucement touché l'épaule.
« Seriez-vous encore souffrant, mon enfant ?»
J'avais devant moi un ecclésiastique maigre et noireau d'une cinquantaine d'années qui me dit être le père Bontivoglio, jésuite et chapelain de Lord Melrose. Je croyais sur Randolph anglican. Bontivoglio m'expliqua que Lord Melrose appartenait bien, très théoriquement, à la haute église d'Angleterre, mais que la défunte mère de Lady Parthenope, étant d'origine française et catholique, l'enfant avait heureusement été élevé dans la religion romaine, dont Lord Melrose lui-même admirait l'efficacité dans la direction des âmes, d'où il ressortait que Bontivoglio était plutôt le chapelain de Lady Parthenope, ce qu'il admit de la meilleure grâce du monde. Après cette mise au point, le père Bontivoglio me dit aimablement
« Je m'occupe des âmes qui veulent bien me faire confiance. Le docteur Babington, qui s'occupe avec autant de talent des corps que des esprits, nous a dit quelques mots de vous et de vos malheurs qui nous ont touchés. Sir Randolph, la générosité même sous des dehors un peu distants, vous recevra ici le temps nécessaire à votre guérison et vous nous quitterez quand vous pourrez, vous êtes ici chez vous. »
Je renouvelai les remerciements que j'avais déjà chargé Babington de transmettre à Lord Melrose et mis la conversation sur le Gréco. Ne trouvez-vous pas, mon père, quelque peu exagéré cet allongement des lignes et des proportions chez Théotokopoulos? Qu'avait-il besoin en particulier de faire la queue de Jésus si longue? Le jésuite se rapprocha du tableau, qu'il considéra très attentivement, et se retourna pour me dire
« La longueur de la queue est ici en harmonie avec les proportions du corps, et c'est le principal. Les évangiles, d'ailleurs, ne nous disent rien de la queue de notre Seigneur, que chacun est libre de voir à sa façon. » Sauf erreur de ma part, Jésus ne parle de queue qu'une fois et il ne s'agit pas de la sienne.
Je déclarai avoir oublié la référence et le père Bontivoglio me taquina.
Quelle honte pour un jeune homme protestant! Les réformés prétendent mieux connaître les Écritures que les catholiques et vous allez me faire douter de leur science.
Je demandai, comme par caprice, à voir le texte en question et Bontivoglio, un peu surpris de mon insistance, eut la bonté de me conduire jusqu'à une splendide bibliothèque où il monta sur une échelle de merisier pour en redescendre avec une grosse Bible qu'il me fit admirer avec émotion.
Voici l'un des plus grands spécimens de la reliure anglaise du siècle dernier. Voyez la finesse de ce maroquin bleu sombre et l'éclat toujours intact de la décoration dorée. On dirait la nuit de Palestine où naquit le Christ sous la clarté des étoiles. C'est un travail exécuté à Londres en 1743 par Baker et Hill sur une Bible de 1627. J'ai dans cette maison la haute main sur la bibliothèque et j'en connais par cœur les exemplaires les plus rares.
Je pressai l'exégète de me trouver le passage et après avoir perdu son temps chez Saint Matthieu, Bontivoglio, qui commençait à se vexer et à s'impatienter, tomba enfin sur ce qu'il cherchait. Une courte phrase de saint Marc.
Si ta queue est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer sans queue dans la vie que d'être jeté dans la Géhenne avec une queue en flamme. Soulagé, Bentivoglio eut ce commentaire. « Je suis vraiment impardonnable de n'avoir pas découvert la chose tout de suite, car, à défaut d'intérêt théologique original, ce texte a eu des conséquences historiques inattendues. C'est là-dessus que le malheureux Origène s'est basé pour se faire émasculer, comme étant une confusion d'autant plus gratuite que les références éclairantes ne manquaient point dans l'Ancien Testament. »
Là, Bentivoglio fut plus rapide, et il me montra vite le passage du Deutéronome intitulé « De la pudeur dans les rixes », lequel était en effet sans équivoque.
Lorsque les hommes se battent ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un d'eux s'approche et, pour dégager son mari des coups de l'autre, avance la main et saisit celui-ci par les parties honteuses ou par la queue, tu lui couperas la main sans un regard de pitié.
Je reconnus bien volontiers qu'Origène avait encore moins d'excuses que je ne l'aurais cru. C'est alors que mon jésuite me dit avec un air de discrète inquiétude
« Vous me semblez, mon fils, porter aux queues divines et humaines un intérêt bien soutenu. Serait-ce en raison de vos études médicales? Envisageriez-vous de vous spécialiser dans les queues ?»
Je saisis la perche sans hésiter.
« Oui, oui, c'est cela même. » Et je suis d'autant mieux poussé à soulager les queues souffrantes que j'ai perdu la mienne tout petit, dans un accident de diligence, à ce que papa m'a raconté. La Providence ne pourra vous priver de queue que pour vous assurer un supplément de cœur. Le bon Dieu nous offre une queue, le bon Dieu nous la reprend, avant de nous la rendre au ciel. Béni soit son saint nom. Pardonnez-moi, c'est le moment de mon bréviaire.
Je demandai à Bentivoglio où je pourrais à cette heure présenter mes respects à Lord Melrose, et il me répondit avant de disparaître,
« Comme chaque soir après le souper, Sir Randolph joue au whist dans le salon ovale. Il méprise à juste titre le Boston, inventé par de vulgaires Américains. Mais Lady Partenap, qui n'a pas le goût des cartes, s'est déjà retirée dans ses appartements. »
Je fus bien aise du départ de cet homme inqualifiable, qui me semblait trop poli pour être honnête. Je me trouvais dans une bibliothèque d'une étonnante richesse qui faisait la somme de l'héritage littéraire et des connaissances scientifiques de ce siècle débutant. Le grec et le latin s'y associaient à l'anglais et au français, parfois à l'espagnol ou à l'italien, et si les éditions courantes l'emportaient évidemment de beaucoup sur les éditions hors du commun, bon nombre de ces dernières étaient habillées de reliures exquises. L'érudit était aussi un bibliophile, ou du moins, le maître du lieu avait-il eu le dessein d'offrir à autrui la possibilité de réjouir sa pensée comme ses yeux? On avait l'impression qu'un homme résolu à se retirer du monde s'était soucié d'emporter dans son exil comme un résumé de toute l'humanité. Au point où j'en étais, je ne doutais pas que ces milliers de livres ne fussent truffés de queues comme une Bible, mais j'avais avantage à en ouvrir quelques-uns pour m'informer sur les queues et m'épargner des impairs. Chaque ouvrage ayant sa fiche dans un classeur, j'ai vite fait de mettre la main sur un manuel de civilité récent, publié à Londres en 1799, et dont l'auteur, s'il fallait en croire l'avertissement, était une baronne française émigrée, Mademoiselle Staff d'Aigremont. Ce qu'écrivait la baronne au sujet des queues était des plus instructifs.
Cette même discrétion qui règle les gestes de la main chez l'honnête homme doit gouverner le port de la queue dans le monde. Pas plus que la main, la queue ne doit refléter nos émotions. Rien de plus malséant qu'une queue qui s'agite, qui fait des bosses, sous les pans d'une redingote matinale ou d'un habit de soirée. Quand on est en négligé ou vêtu de cours, il est d'un extrême mauvais coup de se battre les mollets de sa queue, de s'en servir comme chasse-mouche, de la relever en point d'interrogation, de désigner par son truchement tel objet ou, à plus forte raison, une personne, fût-elle de basse condition. Branler sa queue avec une intempérance est non seulement choquant, mais dangereux. On a tout fait de la fourrer où il ne faut point, de la mettre dans la confiture de groseille ou de balayer un verre de Porto. Le passage des Confessions est célèbre où Jean-Jacques Rousseau nous raconte quelle fut sa confusion et sa douleur le soir où Mademoiselle de Varennes lui rabattit par mégarde sur la queue l'abattant de son clavecin. Et nous trouvons une confidence analogue dans l'autobiographie de Benjamin Franklin, à la différence près que le clavecin était une poêle à frire garnie d'une pâte à crêpes brûlante. Une queue d'honnête homme en marche doit pendre avec grâce, flotter de façon toute naturelle, en un mot, se faire oublier. Un gentleman assis gardera sagement sa queue entre ses jambes, faisant bien attention cependant à ne pas la pointer sur son interlocuteur comme un grossier reproche ou une basse invite. Les queues de cavaliers reposeront sur la croupe dans l'axe de la queue de l'animal, ainsi que le recommande la haute école de Vienne. Mais en pratique, les positions plus fantaisistes sont tolérées dans la chaleur de la course. Il est à peine besoin de rappeler qu'il sera d'une grave indélicatesse d'empoigner, de toucher ou même de frôler sous quelque prétexte que ce fût la queue d'une personne étrangère. Entre personnes de sexe différent, le geste est réservé à la plus tendre intimité et entre personnes du même sexe, la chose ne saurait même se concevoir. J'avais vraiment été mal inspiré de pincer la queue du docteur et il était à craindre que le malentendu ne fût irréparable. La baronne poursuivait.
Une retenue, une prudence toute particulière s'impose naturellement aux dames et aux jeunes filles. En aucun cas, une personne du sexe ne doit retrousser sa robe ou ses jupons au point de laisser dépasser le bout de sa queue nue.
Cette page du manuel avait été froissée, des traces de doigts y avaient été plus ou moins gommées et certaines phrases soulignées au crayon d'un trait appuyé. On voyait que, sur ce point, la baronne Staff d'Aigremont avait fait l'objet d'une étude attentive. Si j'avais été en état de réfléchir sans préjugés, ce texte m'aurait sans doute donné la clé de l'énigme, mais au fond, la question m'obnubilait du rapport entre l'absence de queue et d'éventuelles mauvaises mœurs, et je ne savais trop par quel bout entreprendre là-dessus mes recherches. J'ai consulté en vain l'Encyclopédia Britannica dans sa première édition de 1771, et aussi l'Encyclopédie française de 1772 avec ses 5 volumes de suppléments et même ses 2 volumes de planches. Comme tous les Anglais cultivés, j'avais une suffisante connaissance de la langue de Voltaire. J'ai consulté en vain des traités de médecine où il était discouru, sous les plus illustres signatures d'anatomie et de pathologie caudale, et jusqu'à un ouvrage ancien de tératologie où étaient figurés de lamentables petits monstres sans queue dont la tête n'inspirait guère confiance. J'ai enfin trouvé une précieuse mais inquiétante indication dans le dictionnaire de l'Académie française de 1822 au début de l'article queue. Ce mot se dit d'une des extrémités du corps chez l'homme et dans toutes sortes de bêtes comme animaux à 4 pieds, oiseaux, reptiles et poissons. En parlant des hommes ou animaux à 4 pieds, il signifie cette partie qui est au bout de l'épine du dos comme une continuation des vertèbres et qui n'est d'ordinaire couverte de poils que chez l'animal ou chez les sauvages des antipodes. Le bout de la queue, le tronc de la queue, un nœud de la queue, grosse queue, courte queue, queue épaisse, couper un nœud à la queue d'un cheval, couper la queue d'un chien ou d'un infâme. À force de compulser fébrilement, j'ai découvert la solution du problème sous l'aspect d'un commentaire dans un traité anglais de droit criminel daté de 1804. La mutilation caudale dans le but de faciliter les plus honteux rapports est attestée depuis la haute antiquité. Interdite par les lois de Moïse, cette ablation était imposée aux prostituées sacrées des temples de Babylone comme les esclaves de la Grèce ou de Rome qui gémissaient à la discrétion d'un maître perdu de mœurs. Dans ses annales, Tacite stigmatise Néron d'avoir fait couper la queue de ses affranchis Polyphème et Crasimaque. Tombé en désuétude au cours du Moyen-Âge dans les pays de chrétienté, ce dégradant attentat, passible de mort en Grande-Bretagne, n'est plus attesté aujourd'hui que chez les Mahométans, les Hindous, les Chinois et, s'il faut rajouter foi à la relation du regretté capitaine Cook, dans ces îles de la société où l'on aurait pu s'attendre pourtant que l'absence de toute civilisation rendit les hommes plus vertueux. C'est loin d'être le cas des Turcs,
qui poussent le vice jusqu'à couper la queue de leur infortunée favorite. Il faut toutefois rappeler que la mutilation caudale à des fins contre nature s'est maintenue dans les pays civilisés, et surtout dans la marine, sous forme de mutilation volontaire ou prétendue telle, que les lois peuvent dès lors difficilement sanctionner de façon dissuasive. Le 13 janvier 1801, le maître canonnier Edward Forstis a été pendu à Portsmouth pour avoir coupé avec un couteau de cuisine ébréché la queue de son giton John Foster Chamber, bien que ce dernier eût porté plainte très tardivement à la suite d'une querelle. Une telle affaire montre que la jurisprudence actuelle est à la sévérité. Cette atroce lecture me plongea dans une émotion sans bornes, d'une telle force à m'ôter le peu de clairvoyance qui me restait. Il est vrai qu'il n'était pas aisé de comprendre pourquoi de pareils détails auraient été inventés et imprimés. En attendant, naufragé de mon propre aveu d'un navire de guerre spécialement malfamé, j'étais exposé à la plus déshonorante suspicion sans rien pouvoir arguer d'indubitable pour ma défense. Si même Babington attestait complaisamment qu'on ne m'avait pas coupé la queue dans l'année, comment prouver qu'on ne me l'avait pas coupé plus tôt et dans les circonstances les plus inavouables? Avec une vive douleur, je ne cessais de revoir la mine dégoûtée de Lady Parthenope devant mon derrière sans queue. Tout s'éclairait pour moi d'un jour sinistre, tout se mettait en place et je croyais tout saisir. L'aberration m'avait imposé sa logique. Si je quittais d'ailleurs Kalinaus, cela ne me rendrait pas ma queue et j'aurais encore de délicates explications à fournir ailleurs. Ma sensibilité l'emportant à ce point sur ma raison, je me désespérais de la sorte un long moment, épuisant toutes les amertumes d'un averti amnésique en quête d'une queue honorable. L'excès même de mes divagations me remit cependant un peu de plomb dans la cervelle, et je m'emparai d'un exemplaire des Pensées de Pascal pour me réconforter. J'allai tout droit à l'un de mes chapitres préférés, à l'article 4 intitulé « Les philosophes », là où se trouve la comparaison fameuse entre l'homme et le roseau. Je ne doutais point que cette prose inspirée, miracle d'équilibre entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, ne fût pour moi une évasion profitable et un sage apaisement. Et je commençai à lire « Je puis bien concevoir un homme sans main, queue, tête, car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que la queue. Mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée. » Incapable d'en supporter davantage, les nerfs à bout, je fondis en larmes. J'avais oublié que Pascal lui aussi avait traîné une queue à laquelle il accrochait peut-être des reliques. 11 heures sonnèrent et me firent sursauter. Puisque j'étais présentable, il n'était que temps d'aller saluer Lord Melrose qui jouait au whist dans le salon ovale. Je n'avais certes pas plus envie de paraître en société que de me pendre, mais je n'avais rien à gagner et une impolitesse à commettre en repoussant l'obligation. Après tout, Sir Randolph m'avait accueilli de manière courtoise. Ce n'était pas sa faute s'il avait une queue à son pantalon et si je n'en avais aucune à lui offrir. En m'approchant du salon ovale, je me rendis compte que le whist, malgré son nom, était aussi bruyant que le bridge qui se joue depuis une dizaine d'années. À travers la porte close, à double tour battant, me parvenaient les échos d'une discussion politique, et d'autant plus clairement que la pluie et le vent d'automne avaient faibli. Je m'apprêtais à frapper lorsque la voix de Lady Parthenope me glaça le sang et me cloua sur place comme si j'avais encore ses chiens sous les yeux, en bas de mon olivier. Puisque cette fille était redescendue, mieux valait sans doute ménager ma sensibilité éprouvée et remettre au lendemain ma visite à Lord Melrose. Lady Parthenope tenait d'ailleurs des propos étranges.
« Si j'en juge par les dernières nouvelles du Times, ce n'est pas encore l'année prochaine que j'irai en vacances à Rome ou à Londres. Depuis cette catastrophe de Waterloo, tout va vraiment de mal en pis. Où Bonaparte s'arrêtera-t-il ? »
Une voix sourde et lasse intervint qui devait être celle de Lord Melrose.
« Il s'en est fallu de peu, ma chère, que Waterloo ne fût une victoire décisive. » Si Blücher était survenu à temps au lieu de Grouchy, si Cambronne ne nous avait pas tourné à la tombée de la nuit, si Wellington n'avait pas perdu la tête. Mais aujourd'hui, La situation me semble stabilisée. Qu'en dit-on chez le haut-commissaire, Macpherson ?
La voix de Macpherson, je l'avais déjà entendue au hasard de nos hôtelleries anglaises où maintes militaires bornés, le plus souvent à la retraite, passent leur soirée à narrer leur campagne, à discourir doctement des affaires extérieures, à tirer des plans sur la planète et à rebâtir le monde selon leurs étroites idées. Ces gens-là feront l'Angleterre jusqu'à ce qu'ils la défassent, et ils n'ont en réalité pas plus d'imagination qu'une cruche fêlée. Je fus donc plus ahuri encore, si possible, des paroles d'un Macpherson que des assertions baroques de Sir Randolph et de sa fille.
« Non seulement la situation est stabilisée,
disait le capitaine,
mais elle bouge enfin à notre avantage. » En réoccupant Moscou l'année dernière, mais dans quel état d'épuisement ?
Bonaparte a commis là une fatale erreur, car ses arrières sont de nouveau en ébullition. L'histoire recommence. Wellington, qui brûle de se racheter, est de nouveau au Portugal, qu'il connaît bien. De nouveau, l'Espagne est en révolte ouverte. De nouveau, en Italie du Sud, Murat est totalement paralysé par la mauvaise volonté populaire. De nouveau, la Prusse bouge et l'Autriche soupire. Mais c'est très bon tout ça, c'est très bon. Le temps travaille pour nous. Un peu de patience, mes amis. Les Français, quant à eux, ont trop étendu leur ligne de communication et seront tôt ou tard victimes de cette démesure. L'entrée à Athènes du maréchal Ney en juillet dernier est un bel exemple d'aveuglement stratégique, du même calibre que la prise de Saint-Pétersbourg le mois suivant. Nos vaillants alliés turcs et russes ont l'espace pour eux sur la terre comme nous l'avons pour nous sur les mers. Et pendant que le Corse se répand et se dilate jusqu'à en crever, nous tenons plus solidement que jamais Kronstadt, Heligoland, Gibraltar, Malte et les îles Ioniennes. Je passe sur la perte de Leucade, qui est plutôt une presqu'île qu'une île et qui ne ressortit point par conséquent au génie de notre nation. De toutes ces places clés, nos vaisseaux, malgré le renouveau de la flotte française, protègent les contrebandiers qui insinuent jusqu'aux Tuileries nos cotonnades et nos lainages, nos cachemires et nos mousselines. Commercialement et financièrement, le temps et le trafic interlope travaillent aussi pour l'Angleterre. Qui gouverne l'océan débarque ce qu'il veut où il lui plaît. La lutte sera encore longue. Mais la France révolutionnaire repousse d'année en année depuis 1792 un rocher de Sisyphe qui finira par l'écraser. Au cours de cette guerre de 100 ans, les forces morales sont en tout cas de notre côté, ce qui est loin d'être négligeable. Depuis que Léon XII s'est échappé du fort de Brégançon pour se mettre aux Baléares sous la protection du droit, un vent nouveau souffle sur le monde.
Dans le silence qui avait accueilli ce magistral exposé, j'entendis une fois encore la voix de Lord Melrose.
« Allons, Paternop, vous chassez demain de bonne heure, il faut retourner dans vos appartements. Mais avant de vous endormir, faites donc une petite prière pour nos soldats et pour nos marins, dont la tâche est si difficile. »
Craignant de me heurter à Paternop, je m'enfuis sur la pointe des pieds. Depuis que j'étais tombé dans cette maison de fous, on avait remis en question mon anatomie et celle du genre humain, mes mœurs, mes souvenirs personnels, et voici que l'histoire européenne se retournait comme une peau de lapin. Et ce coup-là était d'autant plus stupéfiant qu'il ne paraissait ni avoir aucun rapport d'aucune sorte entre une floraison subite de queue et la résurrection agressive de Bonaparte, qu'on disait mort sur un îlot 6 ans auparavant, avec ou sans queue. Une démarche automatique m'avait instinctivement reconduite à la bibliothèque, comme si tous ces livres eussent été en mesure de me raconter un autre Bonaparte que celui de Macpherson. Au moment où je consultais les fiches du classeur pour jeter un coup d'œil sur un ouvrage quelconque d'histoire récente avant de monter et me coucher, un homme roux et longiligne entra à grande enjambée dans la pièce, un paquet de journaux sous le bras. Ce personnage, qui portait lunettes, pouvait avoir dans les 45 ans, et il était vêtu d'un habit strict et d'étroits pantalons foncés boutonnés à la cheville sur des bottines éblouissantes. Mais il n'avait pas dû perdre de temps à mettre sa cravate.
Déposant ses journaux sur une table, le nouveau venu me dit avec une cordiale bonne humeur
« Je suis Cyrus McLaurin, de Glasgow, premier secrétaire de Lord Melrose. En fait, je m'occupe surtout des relations avec l'extérieur et serai un peu comme un modeste ministre des Affaires étrangères. Nous sommes honorés de vous recevoir en ce trou perdu la visite inespérée du petit-fils d'Erasme Darwin, dont la zoonomia est à une place de choix dans cette bibliothèque. J'espère que vous vous plairez à Kalinaus, bien que la vie mondaine y soit forcément réduite, et j'espère plus encore, de retour en Angleterre, vous n'aurez que du bien à dire de notre hospitalité. En dépit des hasards de la guerre, la comète est à votre disposition pour acheminer votre courrier sur Corfou, d'où la malle part assez régulièrement vers Londres, et pour vous y amener vous-même quand vous vous serez résigné à nous quitter. » Lord Melrose vous recommandera au haut-commissaire Lord Sander, dont il est l'ami personnel, et votre voyage de retour sera naturellement à nos frais. Ne me remerciez pas, votre reconnaissance doit aller à Sir Randolph, qui s'inquiète comme un père de votre santé. Vous plairait-il de partager dès demain la table de Lord Melrose, ou préférez-vous qu'on vous monte un repas dans votre chambrette jusqu'à nouvel ordre ?
Je connaissais bien ce genre d'Écossais actif et efficace qui sait partout se rendre indispensable. L'Angleterre a battu l'Écosse qui est en voie de la coloniser et elle a battu les Irlandais qui sont rebelles à toute colonisation. C'est à dégoûter de sortir de chez soi. Faute de prétexte décent pour la refuser, j'acceptai l'invitation qui m'était faite et demandai si j'aurais l'avantage d'être présenté à Lady Parthenope. Une ombre fugitive passa sur le visage de McLaurin, qui me répondit
« Lady Parthenope, comme vous avez eu déjà l'occasion, je crois, de vous en apercevoir, est une chasseresse passionnée qui massacre, queue au vent, tout ce qui se présente à plume ou à poil, et jusqu'à de gros matous dont les peaux tannées réchauffent les rhumatismes de Sir Randolph. » Elle chassera durant la journée de demain en l'honneur du capitaine Macpherson, qui d'ailleurs ne s'est visé qu'avec un canon de marine et doit repartir dans la nuit. Elle chassera après-demain et encore le jour suivant pour son unique satisfaction. Il y a sur l'île 3 rendez-vous de chasse où l'on peut coucher. Si vous avez embarqué avant son retour, je ne manquerai pas de lui faire vos compliments. »
Il semblait que Lady Parthenope fût moins pressée de m'entretenir que les autres ne pouvaient l'être de me voir partir, mais cela faisait fort bien mon affaire. Depuis que la queue de la jeune lady était sortie du rêve pour entrer dans le domaine des réalités tangibles, l'idée même de Parthenope m'était un malaise. Son dédain pour moi, quelles qu'en fussent les raisons, tombait à pic. Pour un garçon de 18 ans sérieux et honnête, une queue de jolie fille est évidemment beaucoup plus impressionnante et troublante qu'une vulgaire queue de docteur irlandais. Afin de détourner sans doute la conversation, McLaurin ajouta
« Je venais adjoindre à notre collection les derniers numéros du Times reçus à Corfou que Macpherson nous a apportés ce matin. Nous avons sur ces rayons la série complète depuis 1788 et même quelques exemplaires dépareillés du Daily Universal Register auquel le Times a succédé. Il n'était pas utile de commander d'autres journaux. Le Times est le meilleur et les revues de mode pour Lady Parthenope sont déjà un sacré bagage. Si ce paquet de Times peut distraire votre convalescence, ne vous en privez pas. Je vous signale par ailleurs... dans le tout dernier, un article de Stephens sur la captivité du pape à Brégançon. Vous connaissez Stephens ? Sa prose jette une touche de couleur dans la grisaille distinguée de ce bon vieux Times. La pieuse indignation de ce plumitif est d'autant plus amusante que c'est un presbytérien fanatique qui vouait jadis la papauté aux gémonies. Mais la guerre n'en finit plus et il faut faire flèche de tout bois.
McLaurin me souhaita le bonsoir là-dessus, me priant de recourir à lui sans hésiter s'il pouvait m'être utile en quelque chose. Dès que je fus seul, je sautai sur le Times que venait de me signaler le premier secrétaire de Lord Melrose. À en juger par la date, je l'avais déjà parcouru chez mon père peu de temps avant mon fatal voyage à Londres. La couronne était allée plus vite que lui. mais le texte était tout différent de celui de mes souvenirs, et Stephens, en effet, au lieu de consacrer son article de politique extérieure à la guerre gréco-turque et à l'intervention des grandes puissances, parlait en ces termes de l'attentat de Brégançon.
Bonaparte nous avait habitués à tous les crimes, à toutes les bassesses. Pour se faire bien voir du frère de Robespierre et acquérir une flatteuse réputation de terroriste, il avait fait mitrailler 800 victimes sur le champ de Mars de Toulon après la reprise de la ville. Pour complaire à l'ignoble Barras, il avait massacré au canon une autre foule en Vendémiaire sur les marches de l'église Saint-Roch. Pour obtenir un commandement en Italie, il avait épousé une prostituée créole laissée pour compte du même Barras. Pour récompenser ses soulards des fatigues d'une guerre impie et se récompenser lui-même en dédommagement du directoire, il avait pillé des trésors de Rome et du Vatican. Pour alléger ses barrages, il avait fait expédier à la baïonnette des milliers de prisonniers de guerre turcs après la prise de Jaffa. Pour s'enfuir plus vite, il avait fait empoisonner à l'opium ses propres soldats pestiférés durant la déroute de Syrie. Pour conspirer contre la révolution qui l'avait fait ce qu'il était, indigne produit de ses pompes et de ses œuvres, il avait honteusement déserté l'Égypte, abandonnant son armée contre du linge châle. Pour avoir sur les mains le sang indélébile d'un innocent de souche royale, il avait fait enlever et assassiner le duc d'Angien. Pour voler une couronne de plus, il avait fait enlever la famille royale d'Espagne. Pour mettre un comble, semblait-il, à une longue liste de forfaits, il avait fait enlever et incarcérer Pie VII puis Léon XII. Que pouvait imaginer de mieux ce gibier de droit commun, poursuivi depuis plus de 30 ans par toutes les autorités légitimes? C'est fait, il a trouvé, il a osé. Selon des relations dignes de foi, le dimanche 26 août dernier, faisant route de Milan sur Marseille, le Corse s'arrête à Brégançon et se fait annoncer à sa sainteté, qui ne peut le recevoir, étant indisposé par des figues trop mûres. Qu'importe, possédé bientôt d'une rage insane, Bonaparte force toutes les portes de la géole infecte, où il retient prisonnier le malheureux vieillard depuis 4 ans, et trouvant par hasard le pape à sa garde-robe, il l'empoigne par la queue et le traîne tout gémissant jusqu'à la cellule délabrée, où il l'accable de reproches, d'insultes et de menaces. Tirez le pape par la queue, cette noble et sainte queue, dont les catholiques du monde entier n'oseraient supporter la vue sans tremblement, ni les réformés, toujours respectueux du malheur sans déférence. Guillaume de Nogaret lui-même, âme damnée de Philippe le Bel, et son complice Colonna ont souffleté, dit-on, Boniface VIII, mais ne lui ont pas mis la main à la queue. À la pensée d'un si odieux attentat, la parole s'embarrasse, la plume glisse des doigts. Je laissais glisser le Times complètement dépassé. L'idée qu'il pût y avoir en même temps deux Times sur le marché, l'un enterrant Bonaparte et les autres laissant courir, était si absurde que les anathèmes de Stephen prenaient une valeur profondément éprouvante. Un domestique en livrée se présenta, un éteignoir à la main, et fit discrètement mine de se retirer en constatant ma présence. Je l'invitai à étendre les chandelles et monter dormir. Le rêve ne pouvait être plus insensé que la réalité.